Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on rejoint Aurélien Toulouse qui est en duplex avec nous depuis Victor Immobilier, le cofondateur de Victor Immobilier. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous. On va continuer à parler immobilier. On évoquait un petit peu le marché il y a un instant. Et là, on va essayer ensemble de dire un petit peu ce qu'il en est en termes d'idées préconçues que les épargnants, les Français peuvent avoir sur cet investissement immobilier. Quelles sont pour vous finalement les idées préconçues les plus courantes que vous rencontrez concernant cet investissement immobilier ?
Ouais, il y en a énormément. C'est toujours facile de trouver des freins à l'investissement. Le fait que c'est trop tard, le fait qu'il vaut mieux acheter une résidence principale, pas un investissement locatif. Le fait qu'il faut être riche pour investir en immobilier, il y a énormément d'idées préconçues. Le fait qu'il faut toujours acheter en dessous du prix du marché, quel que soit l'état du bien. Nous, c'est des arguments auxquels on fait face toute la journée. L'idée ensuite, c'est d'être capable de décortiquer le vrai du faux de ces arguments et de clarifier ça avec nos clients.
Alors tiens, justement, dans un des arguments que vous déployez, là où vous avez cité, le fait que beaucoup de gens pensent qu'il faut être riche ou voire même très riche pour investir dans de l'IMO, c'est un mythe ou c'est une réalité ?
Alors c'est sûr qu'être riche ne va pas vous empêcher à investir dans l'immobilier, ça va le faciliter, ça peut permettre de rattraper un certain retard, mais il n'y a pas besoin d'être riche, le tout c'est de commencer le plus tôt possible. Pour que les loyers puissent rembourser les mensualités bancaires. Mais moi, à titre d'exemple, j'ai commencé étant jeune en ayant 20 000 euros. Donc, je pars du principe que 20 000 euros ne signifie pas être riche. Et petit à petit, j'ai réussi à me constituer un patrimoine. Donc voilà, c'est ça pour mon exemple personnel. Mais on a aussi beaucoup de clients sans avoir des revenus mirobolants qui sont capables aujourd'hui, par notre accompagnement depuis 3-4 ans avec eux, d'avoir déjà 4-5 appartements dans différentes villes de France. Donc on voit qu'il faut pas être riche, il faut simplement être capable d'avoir un dossier bien conçu pour le présenter à la banque et d'être prudent, d'être régulier dans ses achats. Et voilà, en faisant un investissement bien pensé petit à petit tous les ans, bah on est capable de se constituer un patrimoine de la même façon que quelqu'un qui peut-être à la base aurait eu plus de moyens.
D'autres parle du marché, parle du risque en disant bah finalement ces fluctuations de marché qui font parfois la une de la presse, etc. Eh ben ça fait que c'est un investissement finalement risqué l'immobilier. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée reçue ?
Oui, dans le risqué, tout est relatif. Hein. C'est sûr qu'en ce moment, on voit que les prix immobiliers ont baissé. Il faut surtout se retrouver dans une position où on n'est pas obligé de vendre aujourd'hui. Vendre aujourd'hui un immobilier serait la pire des situations. Nous, au contraire, on achète énormément en ce moment. On achète parce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui ont peur du contexte. Ils ont peur de l'évolution politique. Ils ont peur de l'évolution réglementaire. On le voit avec les normes environnementales, etc. Nous, au contraire, on joue de cette peur collective pour acheter au rabais de nombreux appartements. Donc ces baisses sont une opportunité. Après, sur la notion de risque, finalement, le livret A, j'exagère à peine, mais le livret A est presque tout aussi risqué. On voit que les taux sont aujourd'hui à 3%. À l'époque, ils étaient à 0,5%. Donc, placer de l'argent en livret A aujourd'hui à 3%, on peut se retrouver dans 3 ans avec un gain de 0,5% par an. Donc, finalement, la notion de risque est relative. C'est simplement, pour conclure, il ne faut pas avoir à vendre son bien immobilier au mauvais moment.
Pour autant, c'est vrai que tiens, vous prenez l'exemple du livret A. J'ai envie de dire, pour un épargnant moyen, investir, puisqu'on va partir sur des termes comparables, investir sur un livret A, c'est très simple. On va dans sa banque, on dépose sa somme sur le livret A, et puis après, on le voit apparaître sur son relevé de compte. Alors que l'immobilier, ça paraît très compliqué. Il y a l'agent immobilier, il y a la recherche, il y a la compromis, il y a la signature définitive, il y a le notaire, il y a le banquier, il y a le courtier. Enfin, on a l'impression finalement que le processus d'investissement immobilier, bah, ça fait que c'est complexe, c'est inaccessible pour les débutants. Enfin, comment lutter un peu aussi contre ce sentiment de labyrinthe, quoi ?
Oui, bien sûr, non, vous avez raison. C'est sûr que le livret A est bien plus simple et surtout bien plus liquide pour sortir son argent. Nous, on le voit, hein, sur 50% des clients qui nous parviennent citent cet argument de complexité comme ayant été un frein à l'acquisition immobilière. Donc c'est un vrai sujet. C'est un sujet que nous traitons chez Victor Investissement, puisque l'idée c'est d'accompagner vraiment de A à Z les clients, que ce soit de la recherche du bien jusqu'à donc chez le notaire, à la signature finale, et surtout ensuite les travaux, puisque achat immobilier rime souvent avec travaux. Et c'est sur cet aspect-là que le particulier qui a peut-être moins d'expérience sur l'immobilier peut avoir quelques soucis. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner de A à Z. Après, l'enjeu pour pas se tromper, c'est voilà, bien être accompagné, bien être renseigné sur le secteur où on investit. Ne pas investir n'importe où parce qu'on a vu des publicités, parce qu'on a vu sur Internet que la rentabilité pouvait être attractive. Il faut vraiment faire preuve de discernement, faire une analyse de marché comme on le ferait finalement sur n'importe quel investissement afin de pouvoir voilà, se positionner sur un bien de façon éclairée.
Je vais filer la métaphore parce que vous parliez du taux du livret A par exemple, et puis là vous prononcez ce mot rentabilité justement. Est-ce que cette rentabilité, elle est surestimée ou mal comprise, on va dire, selon vous? Est-ce que les investisseurs finalement dans leur monde immobilier, dans leur imaginaire immobilier, ils négligent quelques facteurs qui pourraient justement rendre les choses peut-être plus compréhensibles, plus faciles, plus satisfaisantes aussi en termes de rendement, ne serait-ce que ça par exemple?
Oui, vaste sujet. Vous l'avez dit en parlant d'imaginaire. C'est vrai qu'on a tous en tête des publicités sur YouTube ou ailleurs faisant la publicité de rentabilité à 20% par exemple, ou même à 10%. Bien souvent, on confond le brut et le net.
Oui, c'est ça.
C'est très très important de connaître la distinction entre les deux. À mon sens, le brut ne veut absolument rien dire. Le rendement brut, c'est les loyers attendus divisés par le prix d'achat du bien. Sauf que vous savez tout aussi bien que moi que pour louer un appartement ou une maison ou quoi que ce soit, c'est pas seulement le prix d'achat du bien. Vous avez le prix d'achat du bien, vous avez les frais de notaire, vous avez bien souvent les travaux, les frais de l'agence immobilière. Parfois l'ameublement si vous louez en meublé, parfois des honoraires si vous êtes accompagné. Donc en fait, on voit que le coût complet de votre projet peut être à des années-lumière du prix d'achat.
Oui, bien sûr.
Et du coup, naturellement, ça va modifier votre taux de rendement. Donc un rendement immobilier, ça doit s'appréhender en prenant en compte l'ensemble des coûts, et ensuite ça doit aussi se comparer en prenant en compte le secteur sur lequel vous investissez. Si vous investissez sur de la location courte durée, si vous investissez dans des villes très peu peuplées où le risque de vacances immobilières va être supérieur, évidemment, sur le papier, vous devez viser des rentabilités supérieures parce que potentiellement, vous avez un risque de vacances et du coup, vous devez avoir cette marge de manœuvre. C'est aussi quelque chose de plus risqué, donc vous devez avoir un rendement supérieur. À l'inverse, vous investissez dans une très grande ville, Paris, Lyon, Marseille, etc. L'investissement est plus sûr, et comme tout investissement financier qui est plus sûr, évidemment, la rentabilité attendue est plus faible.
On a toujours aussi un peu l'impression dans les idées reçues, ça transparaissait aussi un petit peu dans votre première réponse, c'est de se dire « Ah mais l'immobilier, moi je suis pas là pour investir à 30 ans, je veux gagner rapidement de l'argent, etc. » Et donc finalement, si je suis avec mon appartement, je pourrais pas le revendre rapidement si j'ai besoin, donc l'immo c'est pas fait pour moi. Qu'est-ce qu'on a envie de répondre, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à un investisseur qui vous dirait ça?
C'est vrai que de toute façon, l'immobilier, plus tôt on commence, plus mieux c'est. Donc ça, c'est certain. Maintenant, si on n'a pas investi hier, il sera toujours mieux vaut investir aujourd'hui que dans 10 ans. On sait que pour l'immobilier, il faut être patient, de toute façon. Par contre, ça n'empêche pas de faire des acquisitions achat-revente. Nous accompagnons aussi sur ce volet achat-revente via notre société Victor Capital. L'idée est d'acheter des biens souvent décotés parce qu'il y a des travaux très compliqués à réaliser, décotés parce que ça peut être un très gros immeuble. Et ensuite, l'enjeu est de faciliter la réalisation de ces travaux, de découper éventuellement un immeuble en plusieurs appartements, en vue ensuite de revendre sur le marché des produits qui sont beaucoup plus simples à appréhender par le particulier, ce qui va permettre du coup de faire une plus-value. Pour reprendre aussi votre question sur la possibilité de revendre, l'immobilier est quand même assez liquide dans la mesure où on investit bien. Si on investit dans un hypercentre, si on investit dans une zone où il y a de la demande, c'est toujours facile de revendre. Le seul point, c'est que revendre à très court terme un bien qui n'a pas été pensé pour être vendu, ça peut être problématique, puisque comme je le disais tout à l'heure sur la notion de rentabilité, vous achetez le bien, donc il y a certes votre prix d'achat, mais vous allez aussi payer des frais de notaire, vous allez aussi payer des frais d'agence. Ces frais sont des frais, on va dire, annexes, qui ne sont pas forcément absorbés par la valorisation du bien si vous revendez à très court terme.
Et il ne faut parler que, justement, puisque vous dites des biens qui peuvent peut-être trouver preneur plus facilement, qui soient moins importants, etc. Ça veut dire que, malgré tout, il faut rester sur l'idée d'un immobilier physique, d'acheter un vrai bien immobilier. Ou bien est-ce que tout ce qui est venu un peu avec le digital, le fait de pouvoir acheter peut-être plus facilement des parts de SCPI ou de s'intéresser au crowdfunding immobilier, etc. Est-ce que toutes ces nouvelles technologies, on va dire, sont à prendre en compte, justement, et permettre de lutter aussi contre quelques idées reçues sur l'investissement immobilier, parce que ça rend les choses peut-être un peu plus faciles?
Oui, disons que tout ce qui est digital et les informations qu'on a disponibles en ligne, qui n'étaient peut-être pas disponibles de façon aussi claire il y a 20 ans, aident. Elles aident notamment à l'analyse de marché. Quand on veut comparer le prix d'achat du bien que l'on a en vue par rapport au marché, évidemment, c'est quelque chose de facilité par rapport au passé. Ceci dit, je le disais en introduction, il faut comparer ce qui est comparable. Bien souvent, trop souvent, les clients nous disent « oui, mais mon bien, il est dans la moyenne du marché, voire même il est supérieur à la moyenne du marché ». Je leur réponds « oui, et heureusement, parce que votre bien, il est au moins 50% meilleur que le marché ». Vous avez un balcon, vous avez une vue, la moyenne du marché n'a pas forcément ses caractéristiques. Donc il faut savoir comparer ce qui est comparable. Ouais. C'est pour ça que moi je mets toujours des garde-fous à cette utilisation du digital. C'est sûr que c'est très bien, c'est sûr que ça facilite les choses, mais l'immobilier est et restera un métier humain, un métier qui nécessite d'avoir de la connaissance terrain pour comparer des données, pour les analyser. Et c'est le tout, surtout au final, c'est de réussir à louer l'appartement. En ligne, sur des outils, vous pouvez calculer ce que vous voulez. Si votre appartement n'est pas loué,
Ça restera virtuel.
Exactement.
Merci beaucoup Aurélien. Aurélien Toulouse donc et Victor Immobilier dans Cœur de Patrimoine. Très bonne fin de journée.
Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.